Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Tandis que Donald Trump se prépare à son investiture lundi prochain, des internautes réunis en collectif sont bien décidés à profiter de cette date symbolique pour frapper un grand coup. Les appels à quitter le réseau social X, propriété d'Elon Musk, proche du président américain, se multiplient, y compris dans la presse et la classe politique française.
C'est pas moi toute seule, on doit tous quitter Twitter.
Créé en 2006, Twitter, devenu X, est un outil de communication utilisé au quotidien par 250 millions de personnes. Un lieu de débat privilégié qui dérape sur fond de déferlement de haine et de désinformation. Le milliardaire Elon Musk est même accusé de manipuler l'opinion.
Il s'est payé sa danseuse, son joujou, qui lui permet aujourd'hui d'appeler à voter pour l'AFD en Allemagne ou de renverser le Premier ministre anglais. Qu'est-ce qu'on fera dans 2 ans ou dans 3 ans au moment des élections présidentielles en France quand on aura le réseau social qui sera au service de tel ou tel candidat?
N'y a-t-il plus de garde-fous sur les réseaux? Quels sont les risques? La question se pose d'autant plus que le fondateur de Facebook, qui regroupe 2 milliards d'utilisateurs, a annoncé mettre fin à ses systèmes de vérification des faits aux États-Unis. Une décision opportuniste pour s'attirer les faveurs de l'administration Trump.
Nous sommes arrivés à un point où il y a trop d'erreurs et trop de censure. Je veux donc m'assurer que les gens peuvent partager leurs croyances et leurs expériences sur nos plateformes.
Alors doit-on fuir X et Facebook? Faudrait-il rejoindre le réseau américain Blue Sky, qui ne cesse de faire de nouveaux adeptes, ou s'abonner au chinois TikTok? Au contraire, faut-il rester sur X pour s'opposer aux dérives et aux fake news?
Nos trois invités pour ce débat, David Chavalarias, bonsoir. Vous êtes mathématicien, directeur de recherche au Centre d'analyse et de mathématiques sociales au CNRS. Vous êtes l'auteur du livre « Toxic Data, quand les réseaux manipulent nos opinions » qui est paru chez Flammarion. Et selon vous, quitter le réseau X, ex-Twitter, ça n'est pas de la désertion, c'est du bon sens. C'est une illusion de vouloir y rester pour le combattre. Le problème est qu'il est difficile de quitter ces réseaux sociaux pour des raisons, j'imagine, d'addiction, entre autres, on en parlera avec vous. À côté de vous, Fabrice Epelboin, bonsoir, enseignant, entrepreneur, spécialiste de la cybersécurité. Selon vous, tout ne sent pas bon sur X, certes, mais c'est le reflet de la société. Vouloir quitter les réseaux sociaux, ajoutez-vous, c'est un peu comme vouloir ne plus se mélanger avec les gueux. C'est s'enfermer dans un entre-soi. Et à côté de vous, Anne Belon, bonsoir madame, spécialiste des politiques numériques. Vous enseignez à l'Université de technologie de Compiègne. Votre dernier essai, L'État et la toile, est paru aux éditions du Croquant. Et selon vous, on ne peut pas faire peser toute la responsabilité sur les usagers des réseaux sociaux. C'est aussi au pouvoir public d'intervenir à l'échelle française ou européenne ou mondiale, on verra, et de sanctionner si les plateformes ne respectent pas leurs obligations. Et on démarre ce débat avec le hashtag du jour.
Oui. Hello Kitty, jeu de mots en référence à Hello Kitty, ce personnage japonais toujours très populaire auprès des enfants et pas seulement. Une initiative qui incite donc les utilisateurs de X à en partir dès le 20 janvier, lundi prochain, car c'est le jour de l'investiture de Donald Trump. Hello Kitty donne aussi le mode d'emploi pour migrer sur d'autres plateformes comme Blue Sky, on en parlera tout à l'heure. David Chavalarias, vous êtes donc l'un des initiateurs de cette campagne. Pourquoi le faire maintenant? Il y a des choses qui se sont dégradées pour vous récemment?
Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dégradées. Déjà, on a pu observer depuis le rachat par Elon Musk d'une certaine modification de l'algorithmique qui a dégradé les conditions sur X. Il y a eu une augmentation de la toxicité, il y a eu une baisse de la modération. Il y a eu Musk qui a manipulé les algorithmes pour se mettre au centre et qui, après, lui-même diffuse des fake news. Et puis, donc, plus récemment, on a vu que pendant la campagne américaine, Musk a utilisé ce réseau à des fins idéologiques, c'est-à-dire qu'il a récupéré toute l'algorithmique, l'infrastructure de Twitter pour silencier ses opposants. On sait qu'il a supprimé, par exemple, suspendu temporairement un compte qui faisait de la levée de fonds pour Harris.
Kamala Harris.
Il a utilisé aussi ce réseau-là pour orienter vers des faux contenus. Il a lui-même proposé et diffusé des faux contenus, des deepfakes, par exemple, de Kamala Harris. Et donc, on voit qu'il n'y a plus aucune limite dans l'utilisation de ces données de ce réseau-là à des fins idéologiques. Et il l'assume totalement. Et donc, il faut en prendre acte.
Fabrice Epelboin, vous vous dites, c'est le reflet de la société, c'est-à-dire une droitisation de l'opinion publique. C'est ça qu'il faut comprendre.
Regardez les sondages d'opinion de l'IFOP, de la Sofres, et vous allez voir à quel point la société est beaucoup, beaucoup plus à droite que ce que reflètent les médias. Malheureusement, que ça nous plaise ou non, la société est infiniment plus à droite, infiniment plus toxique, ce terme est tout à fait approprié, que ce qui se passe dans des salons parisiens ou sur des plateaux télé.
Il n'y a pas un déséquilibre maintenant en faveur de cette opinion-là
Mais non. Prenez, j'ai vu récemment un sondage sur, je crois, mais je peux me tromper, qui était, approuvez-vous le fait de priver de HLM les familles d'enfants délinquants pas forcément formulé de cette façon, mais on voit tous de ce dont on parle. On avait un taux d'approbation qui était entre 75 et 80% de la population. Évidemment, dans les salons parisiens ou sur le plateau de télé, c'est absolument pas cette opinion qui se reflète. On a un décalage entre nous bourgeois parisiens,
les élites,
et les gueux.
D'accord.
Oui. Moi, je voudrais répondre par une phrase bien connue du sociologue Pierre Bourdieu. L'opinion publique n'existe pas. Donc, cette opinion publique, elle est grandement fabriquée par les médias eux-mêmes, mais aussi par la manière dont on pose les questions à l'opinion. Elle est aussi fabriquée par ceux qui possèdent aujourd'hui les infrastructures informationnelles les plus importantes, que sont les géants de la tech, qui les instrumentalisent au service d'une idéologie qui n'est pas forcément, je pense, celle de tout le monde. Et donc non, je pense que renvoyer en fait à cette opinion publique, alors que de nombreuses études montrent justement que en fait, ces réseaux sont, et les infrastructures, les algorithmes sont utilisés pour brutaliser, pour cliver le débat, en fait, sont le reflet, non pas d'une opinion, mais dans la manière dont elle est construite par des plateformes.
Je crois quand même qu'il est temps de remettre en question Noam Chomsky. Kamala Harris avait 50% de plus de budget que Donald Trump, ce qui ne l'a pas empêché de perdre lamentablement. On a quitté la fabrique du consentement de Noam Chomsky, où plus vous aviez d'argent, plus vous étiez certain de gagner. On est en train d'entrer dans un nouvel ère, celui effectivement des réseaux sociaux, celui où l'opinion publique ne se fait plus dans le théâtre des médias auxquels nous participons tous, mais sur les réseaux sociaux, avec beaucoup moins de barrières, et puis surtout sur X, sans la moindre censure, et c'est la grande révélation de ces derniers temps, il y a effectivement une censure.
On va quand même, parce qu'il n'y a pas question que de X, mais aussi de Facebook, et dernière actualité en date dans ce débat, Zuckerberg, le patron de Meta, maison mère donc de Facebook et Instagram, a annoncé la fin de son programme de fact-checking, de vérification donc des informations sur les réseaux sociaux. Écoutez la réaction de Joe Biden là-dessus.
And the idea that... You know, a billionaire can buy something and say, by the way, from this point on, we're not gonna fact check anything. It's just completely contrary to everything America's about. I think it's really shameful.
David Chavalarias, c'est honteux, donc il faut en partir. C'est ça votre conclusion?
Oui, mais j'aimerais revenir quand même sur un point. J'aimerais qu'on se base sur des faits scientifiques. On n'est pas en train de parler de dire la société va vers le toxique, etc. On fait de l'audit algorithmique, on montre que les plateformes sont biaisées. La question, ce n'est pas le niveau de toxicité de la société. La question, c'est que si vous avez une plateforme qui, à chaque fois que vous avez un niveau comme ça de toxicité, vous le remonte, il y a un problème. Donc, basez-vous sur des articles scientifiques, s'il vous plaît.
Regardez comment est définie la toxicité, la malinformation, la mésinformation, la subtile nuance entre malinformation et désinformation.
Excusez-moi, mais...
La malinformation qui remet en question les institutions, ce qui est un droit finalement tout à fait un droit démocratique, et qui n'est plus possible aujourd'hui.
Excusez-moi. Je fais de l'audit algorithmique.
Vous faites des maths, je sais.
Non, c'est pas des maths. Je fais de l'audit algorithmique. Je n'ai pas vu un seul article de vous qui parle de ça. Vous n'êtes pas du tout un expert de ça. Moi, je le fais. Il y a des collègues qui le font. Vous allez sur les pages Google Scholar, vous recherchez votre nom, mon nom.
Le code
vous
voyez, est sur GitHub.
Vous voyez, non. Est-ce qu'on peut passer sur ça? Je suis désolé.
Et après, le code de l'audit,
le code de X n'est pas sur GitHub. Je viens de faire un thread.
Attendez, GitHub, c'est quoi?
Parce que là vous nous perdez.
Oui, excusez-moi.
Vous nous perdez.
Il y a universel. Excusez-moi. Tous les grands logiciels open source sont sur GitHub. Elon Musk a un rapport particulier avec la propriété logicielle, les brevets de Tesla sont publics, une partie du code de Twitter, pas tout, est public, et alors, il a cette démarche de
transparence. Mais vous n'êtes pas d'accord sur les algorithmes. Mais non, mais ça, c'est qu'on avance. Non, mais vous dites, la solution, c'est de... Non, mais
on entend.
Mais vous dites, il faut en partir, parce que justement, les algorithmes sont faussés. C'est ça, votre conclusion.
Les algorithmes sont faussés. L'algorithme de X n'est pas du tout open source, comme beaucoup de gens le disent en ce moment, comme Facebook, c'est d'ailleurs public, parce qu'il a été publié il y a 2 ans et pas mis à jour depuis.
Et donc, il faut quitter.
Il faut quitter X parce que c'est devenu une machine à manipuler l'opinion et on peut le prouver par plein d'articles, des articles scientifiques. Ce n'est pas juste des trucs en l'air en disant c'est plus ou moins toxique, c'est des mesures.
Anne Belon, est-ce qu'en même temps, quitter ces réseaux, ce n'est pas prendre le risque de ne plus être dans le débat, de ne plus participer au débat, de déserter?
Ça, c'est évident que pour moi, c'est difficile de renvoyer à la responsabilité individuelle de chacun, c'est des choix collectifs. Si je suis un jeune journaliste, que tous mes collègues sont sur X, je ne vais pas me priver d'un réseau professionnel, d'instance de dialogue qui est plébiscitée par tout le monde.
Alors, il y a 250 millions d'usagers quotidiens sur X et 2 milliards quotidiens sur Facebook, mais il n'y a pas que des jeunes journalistes. Là, on rejoint la théorie
oui,
comme quoi c'est une élite et un entre-soi.
Il y a Donald Trump et Elon Musk qui sont en train de reformater de façon d'une violence inouïe la géopolitique internationale. Donc, si vous voulez comprendre la marche du monde, c'est compliqué.
Oui,
mais en même temps, c'est violent. Hein, là-dessus, je suis tout à fait d'accord.
Oui. Donc, c'est toxique. Je donne l'exemple du journaliste, oui. Je donne aussi l'exemple de n'importe qui a son réseau professionnel, ses amis sur X, Facebook, Instagram, peu importe. Et un des problèmes aujourd'hui que cherchent justement à adresser les règlements européens, c'est le problème de l'interopérabilité, c'est-à-dire comment on facilite la migration d'un réseau à l'autre, comment on fait que aller de X vers Blue Sky ou vers Mastodon, une autre alternative dont on pourra parler, ça ne suppose pas forcément de se couper de son réseau social qu'on a parfois mis du temps à construire, qui peut jouer un rôle dans la carrière.
Revenons sur ce que vous disiez lors de la préparation, vous dites quitter X, c'est ne plus vouloir se mélanger avec les gueux, qu'est-ce que ça veut dire ?
Les gueux toxiques, Elon Musk, qui est quand même extrêmement toxique, Trump, qui, ceci dit, s'est calmé par rapport à son premier mandat pour l'instant, mais qui reste extrêmement toxique, tout son entourage, vous n'avez rien vu encore, qui vont se déferler sur X, mais qui, malgré tout, vont orchestrer la marche du monde. Mmh. Donc, ça va être extrêmement violent, extrêmement toxique.
Donc, on ne quitte pas.
Très pénible. Non, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé d'assister en temps réel à la marche du monde. Ce n'est absolument pas une obligation. Vous avez parfaitement le droit de vouloir vous réfugier dans un safe space à l'abri des horreurs du monde. C'est totalement légitime.
Mais vous dites en même temps que c'est une manière de nier une partie du monde. Si
mais évidemment, si vous êtes plus en contact avec la puissance américaine et la façon dont ils sont en train de s'accaparer le Groenland, d'envisager d'envahir le Canada, si vous êtes coupé de cette réalité du monde, vous allez passer à côté de beaucoup de choses.
Une réaction
non,
à ça.
Non, mais la question, c'est pas...
Par rapport à ce dilemme, rester, quitter, résister
si vous
voulez, déserter.
On a le choix de choisir un réseau social qui correspond à ses valeurs.
Tout à fait.
Si le réseau social X fait de la triche, Elon Musk manipule l'algorithme, il se met au centre du réseau, tout ça c'est démontré, je ne veux pas revenir dessus, vous allez sur les questions fréquentes sur le site eloquitix.com, vous les trouvez, c'est démontré, ok ? Donc j'aimerais qu'on ne revienne pas dessus. La question c'est il faut être sur des espaces où le débat est possible et où il n'y a pas une amplification, soit de la toxicité, soit une invisibilisation de certaines personnes. Et en fait, c'est assez facile, des infrastructures existent. Hein, on a parlé de Blue Sky et Mastodon qui sont des alternatives. Le problème, c'est que les gens sont captifs de leur audience sur X parce qu'on a passé des années à fabriquer des followers, des communautés, etc. Donc, la solution, c'est tout simplement ce qu'on disait tout à l'heure, la portabilité, c'est-à-dire des outils qui permettent de dupliquer votre communauté sur un autre réseau. Et la question de savoir...
Et ça, c'est une réponse technique, c'est pas une réponse politique.
La
question, c'est pas de faire de la politique, c'est de faire de la métapolitique.
Politique
c'est
de savoir au sens de métapolitique.
Qu'est-ce qu'on veut comme espace de débat. Hein. Et le fait de dire... Et quand vous êtes sur X, il faut savoir que les algorithmes de X créent de l'entre-soi et créent de l'hostilité entre les bulles. Hein, c'est pas que si vous quittez X, vous partez et vous désertez. Non, l'algorithmique de X crée des bulles qui s'hostilent qui sont hostiles entre elles, c'est de la décohésion sociale. Et ça reste un réseau de moyens.
Oui, mais Fabrice, si vous allez voir ailleurs.
Mastodon, effectivement, est un refuge et est conçu pour être une espèce de safe space. Et c'est tout à fait un lieu d'accueil pour des gens qui veulent être à l'abri de la toxicité du monde. Par contre, Blue Sky est une entreprise ou une fondation qui obéit à la loi américaine. Et là-dessus, Donald Trump, il y a déjà 4 mois, était parfaitement clair. Si vous intervenez dans ce que les Américains désignent la censure, mais ils ont le premier amendement, donc dans l'esprit américain, c'est de la censure. Si vous
intervenez premier amendement sur la liberté d'expression.
Sur la liberté d'expression. Si vous intervenez dessus, vous n'êtes plus protégé en tant qu'hébergeur, mais en tant qu'éditeur, et donc responsable juridique de l'ensemble des contenus de la plateforme. Donc Blue Sky aura exactement les mêmes fonctionnements que Meta, ils sont juste en retard, mais comme Meta, il se pliera à la loi de Donald Trump, et Meta s'est plié à la loi de Donald Trump, comme Musk a été en avance de phase.
On va y revenir, mais nous voudrions que Fanny Veil puisse évoquer un autre réseau social qui fait débat, il s'appelle TikTok, il est chinois.
Et oui, enfin, il est utilisé par un certain nombre de nos hommes et femmes politiques, en France en tout cas, et ailleurs aussi, Emmanuel Macron, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, et pourtant TikTok est très critiqué. La Chine est accusée de s'en servir pour exercer son influence en faisant la promotion de comptes pro-Pékin, pro-régime ou à l'inverse, en censurant les contenus hostiles, mais aussi pour faire de l'espionnage, parce qu'une loi chinoise sur le renseignement oblige les entreprises du pays à partager les données qu'elles récoltent sur simple demande des autorités. Voilà pourquoi, depuis près de 2 ans, le personnel et les élus de la Commission et du Parlement européen ont interdiction d'utiliser TikTok sur leurs appareils professionnels. Idem aux États-Unis pour les fonctionnaires de l'État fédéral. États-Unis qui menacent d'ailleurs d'interdire la plateforme TikTok depuis plusieurs mois. Elle risque même d'être bannie dès dimanche prochain, sauf si elle se sépare de sa maison mère chinoise et trouve un acquéreur américain. L'agence américaine Bloomberg affirme d'ailleurs que les autorités chinoises sont en ce moment en discussion avec Elon Musk pour qu'il rachète TikTok, parce que pour l'instant, la plateforme dément. Anne Belon, est-ce que c'est pas aussi un peu hypocrite? On parle beaucoup de X depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est pas hypocrite d'appeler absolument à quitter X alors qu'il y a aussi TikTok qui potentiellement peut poser problème et qu'on ne dit pas qu'il faut le quitter?
Alors je pense que c'est pas non plus tout à fait les mêmes problèmes et on voit d'ailleurs que TikTok, on a beaucoup tapé sur TikTok ces derniers temps, qu'il y a des mesures qui sont d'ailleurs beaucoup plus strictes sur l'utilisation de TikTok comme vous les avez rappelées. Je pense aussi qu'il ne faut pas rabattre tous ces réseaux sociaux les uns sur les autres, et notamment rabattre le cas Mark Zuckerberg sur celui de X. X, c'est un réseau qui n'est pas rentable, donc c'est vraiment Elon Musk qui s'est acheté un joujou idéologique pour instrumentaliser la liberté d'expression à des fins politiques. Je pense que pour Mark Zuckerberg, il y a une stratégie beaucoup plus opportuniste dans son ralliement à Donald Trump, puisque lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il a un réseau social, et son réseau social, ça n'est pas pour le bien-être de la démocratie, mais c'est pour monétiser notre temps passé en ligne, et comment on le monétise? En maximisant le temps qu'on va passer avec des contenus de plus en plus engageants, de plus en plus clivants. Donc il y a des convergences entre ces deux positions, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que c'est important de distinguer même les problématiques d'ingérence chinoise sur TikTok, avec aussi peut-être des problèmes d'enfermement, parce que TikTok est un réseau social extrêmement, où la part des recommandations sont beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Donc oui, qu'il a tendance, même si les études là-dessus sont encore en cours, c'est difficile à démontrer. Mais voilà, on n'est pas sur tout à fait les mêmes cas à chaque fois.
David Chavalarias, vous aussi, vous appelez à quitter TikTok ?
Il y a un chapitre dans Toxic Data qui dit « Est-on TokTok d'être sur TikTok ?» TikTok, c'est un instrument de guerre hybride chinoise qui récolte des informations sur les Français et qui amplifie certains trucs. C'est une infrastructure dangereuse aussi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la question, ce n'est pas de se mettre à l'abri de la toxicité du monde, les trolls, etc., ils vont aller partout. La question, c'est de choisir des espaces numériques qui n'amplifient pas la toxicité du monde et qui ne donnent pas une place prépondérante à sa fin.
Alors, il y a des moyens de régulation. On va voir au Brésil, en août dernier, la Cour suprême brésilienne a suspendu X pendant 40 jours pour non-respect de décisions judiciaires liées à la lutte contre la désinformation. Regardez ce reportage de la télévision radio canadienne.
Impossible de se connecter sur le réseau social X au Brésil. Hier, un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné la suspension immédiate du réseau social sur tout le territoire national. Un peu plus tôt, Alexandre Moares, figure de la lutte contre la désinformation au Brésil, avait lancé un ultimatum de 24 heures à Elon Musk, propriétaire de la plateforme, pour qu'il nomme un représentant légal dans le pays, une personne vers qui les autorités pourraient se tourner en cas de dérapage. Moares lui demandait également de supprimer certains comptes populaires accusés d'avoir véhiculé des messages de haine et de fausses informations ayant conduit aux émeutes du 8 janvier 2023 au Brésil.
Finalement, cette suspension a été levée puisque Musk a réglé des amendes, supprimé des comptes soupçonnés de disséminer de fausses informations et il a nommé un nouveau représentant légal au Brésil. C'est pas un exemple à suivre, Fabrice Pellemoin?
Alors, c'est un peu plus compliqué. D'abord parce qu'entre-temps, Trump est élu et le bras de fer va recommencer. Mais surtout parce qu'après l'interdiction de X, les Brésiliens se sont aperçus que l'armée, les hôpitaux, étaient totalement dépendants de Starlink. Parce que vu l'immensité du territoire, il est hors de question de mettre des antennes GSM partout et encore moins des fibres optiques. Le territoire est infiniment trop grand et pas suffisamment dense en termes de population. Et donc, tous les hôpitaux, une large partie des hôpitaux au Brésil et surtout les dispositifs de l'armée brésilienne étaient totalement dépendants de Starlink et ça a posé des problèmes qui étaient de l'ordre de la sécurité nationale. D'où cette espèce de rétropédalage et puis ce storytelling qu'on a fait qui finalement n'est qu'un avant-goût de ce qui va se passer maintenant où la négociation va se passer entre Donald Trump et les autorités brésiliennes.
Bon, et en ce qui concerne l'Europe, ça serait quoi une bonne régulation à l'échelle européenne?
Pour reprendre l'exemple du Brésil, c'est là où on voit qu'une bonne régulation, elle s'adosse aussi à une stratégie de souveraineté numérique qui est indispensable pour être crédible dans les menaces de régulation qu'on fait peser à ces réseaux. Alors en Europe, on a adopté en 2022 le DSA, donc le règlement sur les réseaux sociaux numériques, exactement, qui prévoit, qui dit en fait une chose assez simple, et je pense qu'il répond aussi à cette idée. Le but, c'est pas d'enfermer les gens dans des petits réseaux sociaux qui correspondent à leur opinion, c'est de dire, si, à partir du moment où vous êtes une plateforme de débat qui est suffisamment grande, alors vous avez une obligation de, d'agir pour la qualité de ce débat. Et donc, ça suppose de la transparence sur le fonctionnement de vos algorithmes, sur la manière dont vous modérer, des audits internes et un contrôle des fausses informations.
Alors David Chalarias, pourquoi au lieu d'appeler au boycott, vous ne faites pas pression sur l'Europe pour qu'ils appliquent justement ces préconisations-là? Est-ce que ce n'est pas ça le vrai combat à mener, la régulation plutôt que le boycott?
Alors, la régulation est importante, elle est en cours, elle prend son temps. Et c'est le temps de la régulation. Aux États-Unis, ils avaient 4 ans, ils n'ont pas réussi à réguler à temps et ils ont eu Trump. La question, c'est est-ce qu'on veut avoir la même chose? Il faut agir de manière systémique, donc on laisse les régulateurs faire leur travail, ils font du très bon travail, mais nous, en tant que citoyens, on a une responsabilité pour choisir là où on veut être. Il faut comprendre que le choix du réseau social qu'on fait aujourd'hui détermine le régime politique qu'on aura demain. Donc actuellement, Twitter est une pièce qui est 100% fenêtre où il y a un incendie. Il y en a qui disent « restez dedans par solidarité ». Moi, je dis « on défonce la porte et on sort, on évacue ».
Non, mais est-ce que vous dites qu'il faut aller jusqu'à l'interdire ?
C'est la question des régulateurs.
La ministre française de numérique ne l'a pas exclu.
C'est la question des régulateurs, je ne vais pas m'exprimer à leur place, ils font ce qu'ils veulent. Moi, en tant que citoyen, je dis « il y a un danger sur ce réseau-là ». À côté, il y a des réseaux où on peut sortir. La question, c'est comment on sort. On a construit la plateforme Hello Kitty pour ça. En 5 minutes, vous sortez.
Sur la question de l'interdiction, on a pas Pellebois et après
c'est un pouvoir qu'on a délégué à l'Europe. On ne peut rien faire, nous, petits Français.
L'Europe peut le faire.
Oui, mais visiblement, von der Leyen ne s'en empresse pas.
Pourquoi? Pour pas fâcher Trump.
Mettez-vous à sa place, enfin, en face à la puissance américaine, la NSA qui possède toutes ces informations.
Vous rappelez qui est la NSA ?
L'agence de surveillance générale qui surveille absolument tout le monde, qui a été révélée, dont les actes ont été révélés par Edward Snowden. Vous m'aviez reçu à nombreuses reprises à cette occasion-là. Ouais. Très concrètement, les SMS de von der Leyen qui ont été publiés par les autorités européennes, complètement caviardées, tellement il y a des choses à cacher. La NSA a une copie de tout ça, tout comme elle a copie de...
Donc on a peur.
Mais évidemment. Il faut faire un peu de réel politique. Enfin, la politique,
non,
c'est ça.
Anne Bellon. C'est une question de volonté politique au niveau européen. Ursula von der Leyen n'est pas toute seule. Je pense qu'il y a des rapports de force, ça c'est vrai, au niveau européen, qui ne sont pas forcément très favorables aujourd'hui à accélérer la régulation, mais au moins on a une base légale et une possibilité. Donc ça suppose aussi aux États membres de pousser en ce sens. Et là, je pense que la France n'a certes pas la possibilité d'interdire TikTok, mais en tout cas de jouer un rôle diplomatique à ce niveau-là pour faciliter la mise en œuvre de ce texte très important.
Et le réseau social européen, on ne le verra jamais le jour.
C'est plus que le moteur de recherche.
Mais pourquoi
existe.
Donc
Il existe.
Le Mastodon est un réseau décentralisé qui est créé par l'Européen, qui est libre, et ils ne tiennent qu'à nous de nous en emparer. Franchement, ça prend 5 minutes.
Tout à fait d'accord. Mastodon est un système de micro-communauté. Chacun censure en fonction de ses besoins. C'est parfait pour un safe space. C'est très bien fait pour ça.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.